sur la drogue.
Bonjour. Vous êtes bien sûr qu'à l'Abbé Circus, comme tous les lundis soirs, de 21h à 22h. Et nous commençons toujours en direct, vite fait, sur Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Donc, l'émission du cirque, aujourd'hui 21 novembre, c'est ça. On va vous parler de. Oui, pardon, de cannabis, de vie.
Si
de
tu montais mon micro. Ah, formidable.
Formidable.
Ça change tout.
Donc, on va vous parler encore toujours un petit peu d'alcool en France, forcément, d'alcool, de cannabis et volant. On va vous parler un truc du Figaro qui n'est pas si mauvais que ça, c'est étonnant. Sur des chiffres qui sont pas trop mauvais.
Déjà, on n'a pas le même avis, c'est bien.
On va revenir sur le CNCDH, un petit rappel, une petite piqûre par rapport à ce qu'ils ont fait, parce que c'est un organisme quand même d'État et hexagonal qui a pris position pour la légalisation, en tout cas pour la dépénalisation. Donc, au niveau des droits de l'homme, donc c'est pas mal. Il y a l'Express qui fait un grand article, faut-il légaliser, avec des questions à deux gugus. Un qui est pas mal et l'autre qui est débile.
Ouais, enfin c'est un peu exagéré. Mais bon.
C'est un peu exagéré.
Bref, il faut.
Mais pas tant que ça, on va y revenir un long moment. Parce que, il est long l'article. Oh là 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 là.
Bref, on va défaire et refaire un peu tous ces articles.
Voilà, on va voir. Donc c'est Bernard Leroy et Emmanuel Auriol. Voilà, donc on va venir sur cet article.
Alors Emmanuel Auriol, on a déjà parlé d'elle, à au moins deux ou trois reprises.
D'accord. Voilà.
Donc on la connaît déjà dans cette émission, on a déjà parlé d'elle et de son ouvrage. Qui a été publié en mai dernier. Voilà, on verra tout ça.
Et après tout ça, on refera une pause musicale, hein, parce qu'il faut. Puis on ira faire un tour un petit peu aux États-Unis, au Canada et en Indonésie si on a le temps. Voilà, on verra un petit peu tout ça avec des trucs bizarres, le cannabis et les boissons gazeuses, l'usage culturel du cannabis en Indonésie, où quand on prend du cannabis, on se fait couper la tête parce que c'est interdit. Voilà, on va avoir plein de petites choses en fin d'émission, si on a le temps. On parle du premier cas, là
Oui, Bertrand, alors, le premier cas, Bernard, 55 ans, c'est pas forcément pour parler de lui, mais plutôt pour... c'est pour ça que j'ai mis l'article, hein. Peut-être que toi, j'avais pas commenté, mais c'était plutôt pour souligner la bêtise qu'a sorti le procureur dans le cadre de cette affaire. Hein. Alors, parvenir sur l'histoire de Bernard, hein, qui est un fumeur de cannabis, qui a été contrôlé par les gendarmes, il prétendait qu'il avait vendu sa voiture... Blablabla, il avait un sursis. Bon, bref, il se retrouve au tribunal.
Il s'est enfui, il s'est rattrapé. Un truc, mais
il a tout faux.
Qui est très bizarre, avec une voiture qui est à sa femme, quand en tout cas, la carte grise n'est pas à son nom, qu'il est en train de vendre. Ouais, un truc, c'est franchement louche, hein, il n'y a pas de problème.
Voilà,
moi,
il a tout faux.
Ce qui m'a fait rire quand même, c'est qu'il s'est fait arrêter à Bourré, quand même, hein, au village, dans le lieu dit.
Ça ne s'invente pas, oui. Il s'est fait arrêter à Bourré, B-O-U. Deux R et. Voilà, c'est pour de vrai. Hein.
Voilà, et tout ça, l'article est sorti de la Nouvelle République et sous le titre « Le cannabis pour, entre guillemets, seul plaisir ». Et donc, c'est en direct du tribunal correctionnel de Blois. Et donc, il y avait le procureur qui a fait une super remarque qui a été reprise par le journal.
Putain, mais vite qu'on les envoie qu'on les éduque, ces gens, qu'on les instruise. C'est hallucinant de lire un truc pareil. Donc, je vous cite la phrase du journal donc La Nouvelle République. Le substitut du procureur, Christian Magret, s'appuie sur une récente, ouvrez les guillemets, étude internationale avec 6500 patients pour expliquer au tribunal que le cannabis n'a aucune espèce de vertu thérapeutique. Ça m'a laissé sans voix, quoi. Franchement, je suis scotché de lire un truc pareil. Alors bien sûr, l'étude internationale à laquelle fait référence ce procureur, on ne la connaît pas, elle n'est pas citée, on ne sait pas de quoi il parle. Voilà, vraiment, c'est un truc qui est sorti de nulle part. Je me demande si c'est pas exprès un coup de bluff en fait pour assommer et terminer le procès et passer à autre chose. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'on entend là? T'es pas en train de nous mettre un CD en même temps là ?
Non, non, c'est pas moi, il n'y a pas de souci.
Ah, excusez-nous, on est en direct et on entend des musiques qui sont comme si elles sortaient de chez nous, enfin, émises de la pub à la radio. Mais...
Voilà, ouais. Non, bah, c'était juste pour dire ça, donc sur ce petit article.
Voilà, c'est tout. Donc,
où il y a des procureurs qui manquent
planent.
Un petit peu d'informations.
qui imaginent, qui ont beaucoup d'imagination.
Voilà, mais bah, c'est comme certains qui disent que le réchauffement climatique n'existe pas en s'appuyant sur une étude, hein, alors que toutes les autres.
Disent l'inverse.
Il y en a 99 qui disent l'inverse. Voilà. Allez, un petit peu de musique.
Et à tout de suite.
Complètement, ouais, complètement.
Fracas. Mais c'est pas Ludwig von Etiet, c'est une reprise.
Non, non, c'est si. Rien à voir. Non, ouais. Donc c'est bien Carpath.
qui reprend une chanson des Ludwig.
Non.
Non ?
Non, non.
Bon, c'est les Ludwig qui ont repris une chanson d'eux, alors. Bref, c'est pas grave. Allez, on continue l'émission. Après donc cette magnifique démonstration du procureur de Blois qui nous parle d'une étude que personne ne connaît, réalisée sur 6500 patients, qui prouve donc que le cannabis n'a aucune espèce de vertu thérapeutique. Bien évidemment, c'est faux. Enfin, en tout cas, on ne sait pas de quoi il parle. Et voilà. Et donc, il ne faut pas tenir compte de ce genre d'observation et d'affirmation pseudo-scientifique de ce procureur qui visiblement est très mal informé ou qui est juste pas du tout informé ou je sais pas, qui vit dans une grotte, qui sait même pas ce qui se passe dans le reste du monde. Donc c'est possible, hein, c'est possible. Tout est possible, voilà. Alors, autre article où on désinforme bien les gens, hein, où on raconte bien n'importe quoi, c'est l'article au sujet de la conduite automobile. Il y en a un petit peu là, un petit peu plus ces dernières semaines qui fleurissent dans les journaux. Alors ça, c'est un article qu'on a pris sur France 3 Région, France TV Info.fr, dans sa portion Poitou-Charente, Charente-Maritime. Le cannabis est de plus en plus responsable d'accidents mortels sur la route. C'est un chiffre terrible. 800 personnes meurent sur la route chaque année à cause du cannabis. Alors là, pareil, on ne sait pas d'où il sort ce chiffre. Hein. Les 15-25 ans seraient la tranche d'âge la plus touchée.
D'ailleurs, 15-25 ans, ce n'est pas des conducteurs d'automobile. Hein. Ça commence parce qu'à 15 ans...
On n'a pas le permis de voiture, en général, oui.
Voilà, mais bon, c'est bonne observation. C'est assez mélangé, quoi.
Ça, oui, c'est un peu fourre-tout. En fait, c'est surtout de la propagande, ce genre d'article, plus que de l'information.
Tout à fait.
Donc voilà, donc, vu qu'il y a tout ce problème, vu que les 15-25 ans sont les plus touchés, bah, y a forcément des raisons pour lesquelles les autorités multiplient donc les actions de prévention auprès des jeunes. Donc là, dans cet article, il est question d'un lycée et de 400 lycéens qui sont venus assister à une démonstration spectaculaire qui a été organisée par la police.
On leur a projeté un film.
Alors, un film montrant la reconstitution d'un accident impliquant une voiture et un scooter. Et apparemment, visiblement, de diffuser ça aux lycéens, ça produit un effet. Car les images sont impressionnantes et témoignent de la vulnérabilité d'un conducteur de deux roues. C'est vrai que ça produit un tellement gros effet qu'on est les jeunes, on a en France les jeunes qui fument le plus de cannabis. Il faut voir à quel point ça produit un effet. Visiblement, ça produit plutôt l'effet contraire, j'ai l'impression. Mais bon, en tout cas, ils en sont convaincus. Et donc là, on nous dit que les autorités détectent de plus en plus de conduites sous l'influence de stupéfiants, au pluriel, hein. Mais on nous parle surtout voire même que du cannabis en fait. Donc les stupéfiants, mais le cannabis surtout, voire uniquement dans l'article. Hein, on parle un tout petit peu d'alcool. Mais sous l'effet du cannabis, le fumeur n'a pas conscience de la diminution de ses capacités au volant. Voilà. Pareil, là, le journaliste, visiblement, il a absolument jamais pris connaissance du rapport canadien sur la conduite automobile et des conclusions de ce rapport. Qui sont quand même bien connus.
Du rapport français, d'ailleurs.
Ou même, hein, du rapport français, ouais.
Avec qui on avait fait une conférence.
Avec Bernard Lemont, directeur de l'étude de l'INRETS, hein, stupéfiant accident mortel de la circulation routière. Étude qui fait référence dans le monde entier, sauf en France. Voilà, ça aussi c'est drôle.
Voilà, sinon pour finir sur cet article...
Attends. Parce que malheureusement, il y a à peu près une connerie toutes les lignes, quoi. Je pense que c'est important quand même de.
Oh là là.
C'est quand même important de démonter toutes les bêtises qu'on entend ou qu'on peut lire. Donc, les effets sous l'emprise du cannabis, le fumeur n'aurait pas conscience de la diminution de ses capacités au volant. Donc, comme on vient de dire, globalement, non, c'est faux. Il en a conscience. Et le conducteur, donc c'est ce qui a été prouvé par l'étude canadienne, modifie sa conduite. Voilà. Bon, première chose.
S'adapte.
Deuxième bêtise, l'ivresse cannabique se rapproche des symptômes de l'état alcoolique.
Rien à voir.
Non, en fait, juste pas du tout. Mauvaise évaluation des distances, perte de vigilance et de contrôle, baisse de la concentration, voilà ce qu'on peut lire. En fait, jamais, à aucun moment, on dit la vérité. C'est-à-dire que si effectivement il y a une augmentation des accidents avec le cannabis, c'est parce qu'on a mis de l'alcool avec. Et que ça, effectivement, c'est mesuré scientifiquement que mélanger alcool et cannabis, ça multiplie par 15 le risque de survenue d'un accident mortel. Et ça, c'est attesté par toutes les études qui ont été réalisées, que ce soit en France ou au Canada ou ailleurs. Hein. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mélange alcool-cannabis est délétère. Voilà. Alors par contre, après, il y a quand même quelque chose qui est vrai dans l'article, c'est les conséquences de points. Même si l'on est plus sous l'influence, même si on est plus sous l'influence du produit, on peut encore être dépisté positif. Ça, c'est vrai.
C'est la seule chose qui est vraie, voilà. Tout à fait. Et c'est bien ce qu'il écrit, hein, fumer ou conduire, il faut choisir.
Tout à fait. Donc ça aussi, c'est vrai. La présence dans le corps de traces de THC, même de manière infime, et je rajouterais, et même ancienne, suffisent pour être dans le rouge et ne pas pouvoir échapper à une sanction. Et donc, en sus d'une rétention et d'une suspension administrative ou permis, ainsi que la perte de 6 points, on risque également jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Voilà. On peut également se voir obligé à effectuer un stage de sensibilisation, ensuite aussi se plier à un suivi médical aux propres frais du contrevenant. Et en cas d'une association à une prise d'alcool, ils en parlent, l'amende grimperait jusqu'à 9 000 € et la loi prévoit 3 ans de prison en plus de la suspension ou de l'annulation du permis. Et autre chose aussi qu'il faut quand même dire, parce qu'on a des fois des questions de personnes qui contactent le cirque, si effectivement vous conduisez sous l'effet du... Alors là, pour le coup, du cannabis, hein, et qu'il y a un accident... Eh ben, c'est un motif d'exclusion des droits à la protection et à l'indemnisation prévus par les contrats d'assurance. Voilà. Et en l'occurrence, après, il faut se tourner vers une assurance qui est spécialisée dans l'assurance des conducteurs exclus ou fortement malhussés, ou ayant eu des problèmes avec la justice. Et le prix de la police d'assurance n'est plus la même. Voilà. Mais il y a quand même un recours, mais bon, ça coûte cher. Voilà. Voilà, je voulais quand même raconter tout ça. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce qui est accidentogène, et qui effectivement, hein, c'est attesté scientifiquement, est dangereux, c'est le mélange alcool et cannabis. Et voilà. Et ça, effectivement, c'est dangereux. Ça peut être dangereux, hein, si on conduit, après avoir consommé les deux. Voilà, consommer du seul cannabis, seulement, même modérément, d'après l'étude de stupéfiants, accidents et mortels de la circulation routière, ça ne provoque pas 800 accidents mortels par an. Ça ne fait pas 800 morts. C'est un chiffre beaucoup plus bas, d'environ 300, qui est à rapprocher du nombre de tués de gens qui manipulent un élément dans leur voiture, qui téléphonent au volant.
Téléphoner au volant, c'est beaucoup plus dangereux encore.
Mais je crois que les chiffres étaient à peu près les mêmes, hein. C'est ce qu'il disait Lomont. Hein. C'était assez différent, c'était assez peu différent, je crois. Où il y avait peut-être 100 ou 200 tués de plus, enfin l'estimation pouvait être de 100 ou 200 tués de plus par an pour le téléphone, ce qui est vrai, t'as raison, c'est plus, mais c'est pas non plus des milliers, quoi. Voilà, donc et encore, hein, Lomont prenait beaucoup de guillemets pour dire que effectivement le cannabis pouvait être considéré comme responsable de, voilà, voilà. Par contre, alcool, cannabis, encore une fois, bah là, ouais, effectivement, c'est dangereux. Et voire même, je rajouterais peut-être alcool, cannabis et d'autres substances, ou cannabis et d'autres substances. Voilà ce que je voulais expliquer. Ensuite, je te laisse l'article du Figaro, ou tu veux...
C'était des chiffres qui rappelaient nombre de consommateurs, 1,4 million de Français en consomment de façon régulière.
Ah oui, alors attends, excuse-moi, avant que tu continues, l'article... Ça s'intitule « Consommation saisie, chiffre d'affaires, les chiffres de la drogue en France ». Et dans l'article, on ne parle que du cannabis.
C'est vrai.
Donc, encore une fois, c'est pas très sérieux, quoi. On parle de la drogue, mais on parle que du cannabis dans l'article. Voilà. Donc on en parle au niveau du chiffre d'affaires, des réseaux, des saisies, de la consommation et de la dangerosité. Je te laisse maintenant.
D'accord, c'est vrai. Mais bon, sinon, voilà, 1,4 million de Français en consomment de façon régulière. Il faudrait qu'ils précisent qu'est-ce qu'est les façons régulières, mais c'est à peu près ça. Hein. Quotidien, c'est un peu moins. Sommelier, c'est un peu plus. Après, on n'a que des chiffres, voilà, ça va de 700 000 à 2 millions 2. Et après, ceux qui fument une fois par an, on arrive à 5, 7 millions. Bon, après, donc le chiffre d'affaires, 1,1 milliard de, selon donc, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Ça devait être ça hein, qu'ils avaient sorti, je ne pense pas qu'ils aient modifié les chiffres. Les réseaux, alors beaucoup, beaucoup d'individus. Donc il y a plus de 1000 individus têtes de réseau qui ont des gros, gros gains, 380 000 euros. Puis après, il y a 10 000 grossistes. Et puis après, 65 et après 92 000 semi-grossistes et 133 000 vendeurs de rue. Je pense qu'il doit encore y en avoir un peu plus dans les vendeurs de rue. Hein. Mais bon, en tout cas, ça nous fait quand même plus de 200 000 personnes qui travaillent grâce au cannabis. Je pense que si c'était légal, ça serait au moins ces chiffres-là, voire plus, puisque nous aurions aussi la production.
Oui, beaucoup plus.
Je pense. Et donc, je pense qu'on arriverait à 400 000 ou 500 000 emplois.
Ouais, voilà. Ça, j'en sais rien, mais ça ferait beaucoup de monde en plus. Enfin... qui travaillerait dans l'économie légale avec de l'argent qui pourrait être réinjecté dans le système. Bon.
Les saisies, sinon, toujours les saisies, toujours 80% importées du Maroc. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Le Maroc est toujours notre ami le roi, est toujours le premier producteur de cannabis au monde, suivi d'assez près par l'Afghanistan, mais toujours en tête sur le cannabis. Bon, par contre, sur les surfaces, beaucoup moins. Il y a des pays qui font de l'herbe qui en consomment plus. Hein, voilà. Je reviens ensuite. La consommation, donc c'est ce qu'il disait, 1,4 de façon régulière, 4,6 millions de personnes avaient consommé du cannabis en 2014. Donc ça doit être dans l'année, hein, parce que si on fait la réalité en cumul, on n'est pas encore la moitié des Français, mais on a bien dépassé le quart. Hein. Voilà, bon, et sinon la dangerosité, ça ne va pas te plaire puisque tu n'aimes point. eux, ils disent que les trafiquants, pourquoi les trafiquants, bref, la mode, proposent des résines de cannabis toujours plus dosées, ce qui renforce leurs effets et en augmente les risques. Donc, la teneur moyenne de THC dans les résines saisies par les douanes dans les années entre 2005 et 2010 est passée de 9% à 11%. Les saisies et les variétés, ils ont même attrapé certaines qui étaient dosées à 20 ou 25%. Voilà, donc ça c'est pour les résines. Et c'est vrai que quand on remonte à une dizaine d'années, quand on avait pu faire des tests, les résines n'étaient pas dosées autant que ça.
Ouais. Oui, si tu veux, oui.
Oui, non, elles étaient dans ces eaux-là.
Bah, moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il y a une dizaine d'années, au niveau des produits qui avaient été testés, et qui avaient été fait tester par des gens de notre entourage, dont certaines faisaient partie du programme Synthès, de collecte des données pour la MILT à l'époque. Selon les produits qui avaient été testés, on avait eu des résultats qui étaient tout sauf fiables. Enfin, il y avait eu des résultats qui étaient complètement farfelus.
Il y avait deux labos et surtout le deuxième était totalement farfelu. Oui.
Donc bon, si eux ils utilisent ces labos-là pour faire leurs analyses, bon, c'est pas très fiable non plus. Puis c'est, franchement, bah, quand on connaît un peu, c'est pas très impressionnant finalement, quoi. Et voilà, peut-être qu'en 2012, ils ont saisi une ou deux fois des variétés de cannabis fortement dosées. Donc là, ils disent 20-25%. Très honnêtement, ça ne doit pas arriver souvent. Le propre, je dirais, des produits de contrefaçon qui circulent dans des économies ou des systèmes de marché clandestin, voilà, c'est plutôt de faire circuler des produits peu dosés, très coupés, pour augmenter le prix, le bénéfice, quoi. Oui. Donc bon, là aussi, je suis un peu sceptique quand même, hein. Même si effectivement je nie pas qu'une ou deux fois ça peut arriver.
Mais on ne sait pas quelle dose ils avaient attrapé, ils avaient peut-être juste attrapé 5 grammes. Hein.
Oui, en plus, oui. Oui, effectivement, là. Bon, c'est pas, effectivement, c'est pas parce que c'est les douanes qui saisissent à chaque fois une tonne ou une cargaison. Hein.
Voilà.
Voilà, ils peuvent arrêter un individu des fois. Hein.
Voilà, voilà. Bon, donc, bref, quelques petits trucs, des données, bon, à peu près fiables. Pour le Figaro, qui, pour elle, pour qui la drogue est uniquement le cannabis. Alors qu'il faudrait leur rappeler que la drogue représente tous les produits sur le marché qui vont des qui agissent sur le cerveau, qui vont mettre du médicament aux opiacés en passant par l'alcool.
Voilà, bon. Donc voilà, cet article du Figaro qui nous parle des chiffres des saisies du chiffre d'affaires de la drogue en ne parlant que du cannabis. C'est un article finalement très partiel et partial et qui contient là aussi des choses assez peu précises, j'ai l'impression parfois.
Voilà, donc après nous avons un article dans Le Point, Cannabis, les graines de la dépénalisation. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, s'est prononcée en faveur de la dépénalisation du cannabis. Une idée qui fait son chemin. Donc on a déjà parlé la semaine dernière.
Oui, voire là même de la semaine d'avant. Donc c'est pas mal que d'autres canards en fait se préoccupent un peu de cette question et en parlent. Donc là en l'occurrence c'est Le Point dans un article de la semaine dernière. Bon, rien de nouveau hein, dans cet article. Il nous rappelle que 52% des Français sont en faveur d'un débat. Moi je dirais même que 52% des Français sont plutôt même en faveur d'un changement de législation à partir du moment où si on s'y met correctement, on fait une loi intelligente. En tout cas voilà, on nous rappelle que, alors là ces 52% c'est aussi pour dire que voilà, 52% des Français seraient quand même favorables à ce que la question du cannabis ou de la dépénalisation soit quand même abordée pendant l'élection présidentielle. Voilà. Malheureusement, je crois que ça ne sera pas le cas.
Elle l'est un tout petit peu abordée, mais sur la marge. Il faudra voir. On a Hamon qui est pour la légalisation. On a
Hamon. Hamon va être au deuxième tour ou même au premier tour de la présidentielle. Non.
Il y a Mélenchon qui est pour la dépénalisation.
Alors lui, effectivement, oui. Bon, Pascal Jadot et Rivasi chez les Verts, mais ils vont faire 1,2%.
C'est Jadot maintenant. Hein.
C'est Jadot, Rivasi, d'accord. Oui, c'est Jadot qui.
T'as raté le deuxième épisode.
Ah, excusez, oui, je suis désolé. Je crois que c'est. J'en étais toujours à la finale Rivasi Jadot, mais visiblement, comme tu dis, c'est Jadot.
Voilà, donc
ça va être très 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 abordé de manière très 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 marginale. Voilà.
Après,
malheureusement.
Oui.
Avec sinon, Fillon.
Autre chose, Georges Moréas, c'est un ancien commissaire, toujours un ancien, jamais connu en exercice, qui soutient que le système de répression a atteint ses limites, mais ça en fait depuis longtemps. Il rappelle que 40% de l'activité d'un commissariat de banlieue parisienne est consacrée à la lutte contre l'usage et le trafic des drogues. En vain, souligne-t-il. Intéressant. Mais en tout cas, ce qu'on voit avec cette politique du chiffre, c'est quand même que pour l'interpellation pour simple usage est passée de 25 000 à 150 000. C'est-à-dire qu'elle a quand même été multipliée par 8, 9 par 6. C'est déjà pas mal. Hein.
C'est même énorme.
C'est même énorme.
Et puis depuis entre 1990 et 2008, mais aujourd'hui on est en 2016 et on en est toujours à 150 000. Hein. Ça n'a pas baissé.
Oui.
L'élection de Hollande et la présence dans le gouvernement de Manuel Valls n'ont pas fait diminuer ces chiffres. Et donc l'activité policière est toujours aussi focalisée sur le cannabis et les consommateurs, essentiellement. Voilà. Alors. Dans cet article, on nous parle quand même, de ce constat d'échec. Il y en a qui veulent quand même sortir de ce statu quo. Donc, on nous reparle du très fameux rapport
de Terra Nova,
qui recommandait. Alors, ils nous disent en octobre dernier. Ils sont un peu trompés. C'est plutôt en novembre 2014, c'est que ça commence déjà à faire. de la légalisation sur le modèle des jeux en ligne, voilà, avec la mise en place d'une, d'une espèce d'agence de contrôle, hein, c'est un peu ce qui sur le c'est un peu ce qui était ressorti.
Voilà, il rappelle aussi que Cécile Duflot, Christiane Taubira ou Jean-Marie Le Guen ont pris position pour la légalisation et que Manuel Valls s'y est fortement opposé.
Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
Non, cet article est creux, hein, y a pas...
Voilà. Ah oui, dernier truc, j'ai trouvé ça rigolo. Nous rappeler que le 11 octobre, donc Marisol Touraine, ministre de la Santé, s'est prononcée favorablement, non pas pour la dépénalisation, mais j'aime bien ça, mais elle s'est prononcée favorablement pour la tenue d'un débat sur la nature de la sanction à mettre en place par rapport au cannabis. Voilà. Ils en sont toujours là.
Ouais, c'est déjà posé la question qu'il y a un truc qui ne va pas.
Ouais, ils ont fait même pas un pas. Ils ont fait un mouvement de doigt de pied. Voilà. C'est déjà mieux que rien, t'as raison. Ouais. Peut-être qu'en 2150, on y arrivera. Ah non, la Terre aura déjà cramé avant, merde. Bon, allez, musique.
À maquer l'instrument qui se sonne la crabe, vous en soi une aire traditionnelle marseillaise.
Guerre débat tactique que nous allons faire tous les deux. Quand la boulette est petite, faut-il faire un joint ou deux? Faut-il tout fumer de suite ou regarder un petit peu? Répondez-moi, je le veux.
Moussu, tu tombes à pique, ce sujet je connais bien. J'ai tant d'années de pratique que mon choix sera certain. Moi je fais un micro-stick et le reste dans un coin, je le garde pour demain.
Gary Grew, c'est vraiment grave, je te reconnais bien là. Ta tactique est super naze, car on n'est jamais fracas. Mets-toi donc à la Gauloise et cours aussitôt au tabac. Ils n'attendent plus que toi.
Moussu, t'es comment tu parles? Moi je suis resté poli.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Quand il n'aura plus que dalle, qui viendra faire le joli? Qui partira en cavale au beau milieu de la nuit pour un choco de cambouis?
Gary Grew, mets la ceinture car j'élève le débat. Même si pour toi c'est dur, quand on aime on compte pas. Et dans la frie confiture il n'existe qu'une loi, fumer ne calcule pas.
Moussu, t'es si on t'écoute, on est dans un beau merdier. On est des mamés sans doute, mais un seul jour par année. Si on te suit, on est moute, même en début de soirée. À 8h on est couché.
Ça me prend la tête, je vais te dire franco.
Allez, dis-moi.
Je devais me rouler un pet et j'y mettrai tout le morceau. Et sur une autre planète, je partirai aussitôt, loin de tes plans de porno.
Et fan à lui, Moussu, t'es allé, dégage, tu m'as gonflé le testo.
Ah, tu parles mal,
et si j'étais pas si brave, ça finirait en baston.
Allez, la violence, allez, vas-y.
De parole, tu te caves, mais c'est moi qui ai le chichon. Tu vas rester comme un con.
Crois-le, hein.
Hop, la bande de monstres. Il faut arrêter les frais. V1 dirait de Jobastra. Vous allez nous faire manquer. Donnez-moi cette boulette et deux feuilles de risla. Un morceau de cigarette et ça ira comme ça.
Eh ouais. C'était Massilia.
Tension de bambou. Voilà. Alors maintenant, on se penche donc sur cet article de l'Express, si tu vois pas d'inconvénient, qui est en fait un débat.
Ouais.
Voilà. Donc un article intitulé « Faut-il légaliser le cannabis ?» Point d'interrogation. Donc en fait, c'est un débat auquel participent deux protagonistes. L'une, Emmanuelle Auriol, donc est professeure à la Toulouse School of Economics. À Toulouse, donc. À l'école d'économie de Toulouse, hein, on va plutôt dire.
Voilà, ouais. Et puis elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Les mafias, sexe, drogue, clandestin, si on légalisait », qui a été édité à Armand Collin.
Elle n'a pas écrit « Les mafias pour en finir avec les mafias ».
Oui, pardon.
Voilà. Et donc l'autre, c'est Bernard Leroy, donc ancien juge d'instruction spécialisé dans les stupéfiants. Il a été responsable pendant 20 ans du programme d'assistance juridique de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Avocat général honoraire, et il est membre de l'OICS. Voilà.
Et l'ONUDC, rappelez-vous que quand même, ces dernières années étaient pour l'éradication totale de 3 plantes de la surface de la Terre. C'est-à-dire du pavot,
de la coca et du cannabis.
Et
ils ont splendidement raté leur coup.
Oui.
Ils ont formidablement échoué.
Donc
et ils continuent.
Ça fait 15 ans qu'ils avaient affirmé ça. Au bout de 5 ans, ça n'avait pas marché, mais ils ont continué.
La première fois, c'est en 88.
Et au bout de 10 ans, ils commencent à se dire qu'ils se sont trompés.
Ouais. La première fois qu'ils ont affirmé ça, un monde sans drogue, nana, c'était en 88.
Oui, mais quand ils avaient dit, dans 2 ans, là, ces 3 plantes seront éradiquées.
En 2008, je crois.
C'était plus tard. Mais bon.
Bon, bref, en tout cas, ils sont formidablement plantés, et ils continuent à se planter d'ailleurs. Et voilà, lui, là, c'est Bernard Leroy.
Il tient l'éradication d'une espèce comme ça.
En plus, ouais. Mais en tout cas, lui, Bernard Leroy, il en tient une sacrée couche. Hein. Ben, adieu, dis donc. Alors, là aussi, il y a du boulot. On a du boulot. Hein. Puis, vous allez voir dans l'article. Hein. Voilà, j'ai perdu mon début. Ah voilà, les candidats à la présidentielle sont rares à se positionner sur l'avenir du cannabis. Donc, diriez-vous que le sujet reste tabou? Voilà un peu la question d'introduction posée par Julie Delabrosse, donc, qui est journaliste à l'Express, et à laquelle répond en premier Emmanuel Auriol, donc cette prof à l'école d'économie de Toulouse, qui dit que oui, en effet, en tout cas, pour la plupart des personnalités politiques qui savent que la prohibition est inefficace, c'est tabou, donc, mais ils ont peur de prendre des coups en prenant la légalisation du cannabis.
Voilà, bon, elle dit rien d'autre quasiment.
Voilà.
Après Bernard Leroy, alors lui... Où est-il démontré que la légalisation constitue la solution? Nulle part. voilà, bon, je crois qu'on a tout dit quand on a dit ça. Bah ouais, c'est vrai que nulle part il y a eu la solution. Si, il y a une... Il y a des dépénalisations, il y a des tolérances, et on voit que ça marche plutôt mieux et que les résultats sont plutôt positifs que...
Non mais la solution, la légalisation, et que c'est démontré, on l'a. Enfin, je veux dire, la démonstration, elle a été faite en... elle a été faite dans les années 30 aux États-Unis quand ils ont relégalisé l'alcool.
Par exemple.
Voilà. Et tous ceux qui vivaient du trafic, les guetteurs, les petits jeunes qui étaient les vendeurs et tout, bon, bah, tous ces gens-là, une fois la légalisation de l'alcool... mise en place, se sont rabattus sur le cannabis. Voilà. Donc,
voilà. Bah, par contre, il dit un truc qui est absurde, mais qui est vrai, mais qui est con dans ce cadre-là. Il dit, voilà, actuellement, il est inscrit dans l'inconscient collectif que toutes les difficultés peuvent être résolues en recouvrant à une substance chimique, un médicament ou une drogue.
C'est ce qui n'est pas faux.
Ce qui n'est pas faux.
C'est pas faux du tout.
Mais il arrive, légaliser le cannabis ne ferait que renforcer cette approche. Pourquoi? Bon, ça donnerait le choix, au moins chacun. Voilà, ça donnerait le choix. Il faudrait faire de l'instruction, il faudrait travailler à la prévention par rapport à l'usage de tel produit. Mais voilà, mais c'est ça. Mais le cannabis devrait pouvoir être pris comme un autre médicament ou comme l'alcool ou comme les drogues qui sont actuellement légales. Et la deuxième chose qu'il dit, donc ça c'était absurde hein, de vouloir sortir le cannabis de la légalisation. Mais sinon, il dit sans traiter la cause du problème. Ça c'est vrai, la cause du problème c'est peut-être qu'on est dans une société inintéressante où il n'y a que l'argent. Où le veau d'or est revenu la seule idole.
Oui, l'argent, l'individualisme à tout prix, voilà. Cette espèce de fantasme de vouloir réussir, de devenir milliardaire ou je ne sais quoi, bref. Puis il y a autre chose aussi qui dit, qui est complètement crétin, et en plus, la Hollande a démontré que c'est l'inverse. Hein, c'est-à-dire, il dit que l'accès à l'exposition aux drogues dures serait en revanche facilité si on légalise le cannabis. Comme on le voit aux États-Unis où se répandent des produits très puissants comme le fentanyl. Mais non, c'est faux, justement, le fentanyl peut se répandre parce qu'il n'y a pas de séparation des marchés, et que la Hollande, qui a dépénalisé le cannabis, l'a fait notamment pour séparer les marchés des drogues, pour que justement l'amateur de cannabis ne se retrouve pas à un moment donné à devoir négocier pour du cannabis et avec quelqu'un qui pourrait lui proposer justement d'autres substances. Donc ce qu'il dit est faux. L'expérience hollandaise a prouvé l'inverse.
Ah oui, non, mais il a des trucs qui sont des raisonnements sans queue ni tête. Il ajoute des trucs qui sont de temps en temps vrais, d'autres faux, et puis il les accole comme si l'ensemble faisait partie d'un tout, alors que oui, non, c'est de l'à peu près. Quoi.
Heureusement qu'il est spécialiste des stupéfiants, hein, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on aurait lu.
Voilà, alors après, la question de la journaliste, c'est de savoir pourquoi on est dans le paradoxe que la France est le plus gros consommateur de cannabis alors que c'est le pays où il y a une répression des plus fortes. La première n'y répond pas trop. Elle rappelle qu'on est juste derrière les Tchèques, hein, on n'est pas les premiers, on n'est pas les plus fumeurs.
Bah, ce qu'elle dit qui est intéressant et qu'on peut lire partout, hein, c'est que plus on criminalise, plus la criminalisation est forte et ça ne rime pas systématiquement avec une baisse de la consommation, voire même c'est l'inverse.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est ce qui se passe en France. Elle dit voilà, face à ce constat, on peut s'entêter dans une politique répressive extrêmement coûteuse pour le contribuable et inefficace, ou décider d'expérimenter d'autres solutions. Et lui, là, voilà ce qu'il nous dit. Moi, j'ai rien compris à sa réponse. Hein. C'est pas parce que le nombre d'arrestations est élevé que la politique de répression est forcément très punitive. Non,
mais... Oui, c'est ce qu'il veut dire. Mais par contre, d'un autre côté, c'est hallucinant parce qu'il est lui aussi très contradictoire. Parce que lui, il veut dire que les juges sont laxistes, en gros. Hein, c'est que tu te fais prendre avec du cannabis et on te relaxe. Alors que la phrase d'après, il rajoute « En France, on estime qu'environ 1% des interpellés pour usage, soit 1500 personnes, seulement sont condamnés chaque année à la prison ferme. » Mais c'est intéressant ça, parce qu'on a quand même un nombre de politiques qui nous dit que c'est tellement laxiste qu'il n'y a aucun simple usager en prison. Et là, lui, il nous sort un chiffre, 1%, 1500 personnes. Et ça rejoint un petit peu ce qu'un autre avait dit il y a quelque temps, donc voilà. Et là, du coup, bah non, c'est pas rien du tout. Avec juste un bédo, on peut arriver aux onzons.
Il faut remettre les choses.
C'est rare, mais ça arrive.
Et il faut mettre les choses dans un contexte plus large et dans une dimension historique plus longue. Et effectivement, s'il y a 1500 personnes par an qui sont condamnées et qui finissent derrière les barreaux, tout ça mis sur une durée de 10 ans, ça fait 15 000, voire plus de 20 000 personnes. Ce qui est énorme, énorme. Voilà. Et 150 000 personnes interpellées, pareil sur 10 ans, ça fait 1 500 000 quoi.
Ouais.
Donc on assiste. En France, la répression du cannabis, c'est une répression de masse. C'est un contentieux de masse. Voilà. Donc si lui il est content avec 1500 personnes incarcérées et qui ont juste fumé un pétard, il a rien compris ce mec-là. Franchement, ouais,
c'est honteux. Mais c'est quand même 150 000 interpellations. C'est bien ça quoi. C'est 150 000 par an. Ça en fait 1,5 million en 10 ans. Oui, c'est ça.
Bon, bref. Ça, c'est impressionnant. Pierre, autre chose qui dit que moi, j'ai rien compris. Ensuite, parce que multiplier les interpellations permet à certains pays d'afficher de belles statistiques policières. Quoi qu'il en soit, c'est un vrai problème si la loi n'est pas appliquée. Car si elle n'est pas appliquée, elle perd toute crédibilité sociale et donc toute fonction dissuasive. Ah oui, c'est un vrai problème, monsieur. Du coup, il faut y remédier. Bon, bah, il ne va pas beaucoup plus loin. Un peu plus loin, il dit comme ça. Alors ça, je trouve ça vraiment fort. Parmi les arguments des défenseurs de la légalisation figure celui de la guerre menée contre les narcotrafiquants dont l'une des principales sources de revenus serait alors coupée. Mais peut-on dire avec certitude que la légalisation affaiblirait les marchés noirs? Ben oui mon pauvre, qu'est-ce que tu crois? Je sais pas, peut-être que lui où il habite, il croise des gens qui vendent du Beaujolais nouveau au coin de la rue, sous le manteau comme ça, ouais t'en veux, c'est du Beaujolais et tout, il est trop bon, ça va te défoncer. Peut-être que lui il vit dans un monde où il voit ça, je sais pas, mais bon, visiblement il vit pas dans le même monde que nous quoi. Voilà. Alors Emmanuel Auriol ensuite remet un peu les choses d'aplomb en disant que effectivement les narcotrafiquants prospèrent grâce à la prohibition. Que cette politique qui vise à éradiquer certains marchés en supprimant l'offre légale ne supprime pas la demande, que cette dernière, si elle est forte, les criminels forcément y répondent, qu'avant la prohibition de l'alcool, il n'y avait pas de crime organisé aux États-Unis, et que plus tard, la guerre à la drogue lancée par Nixon et intensifiée par Reagan a eu pour effet désastreux de faire exploser la population carcérale. Voilà, elle nous reprend tout l'argument sur effectivement la pénalisation, la surpénalisation des Noirs qui étaient plutôt pauvres, qui consommaient plutôt du crack et de la cocaïne, enfin plutôt du crack que de la cocaïne, avec les lois qui avaient été rendues plus sévères au niveau de la durée, notamment par Reagan. Voilà, et aujourd'hui, bah, on a abouti à ça. Un Américain sur 111 croupit en prison, dont une majorité est noire américaine. Voilà. Mais lui, il continue, ce Bernard, j'ai oublié son nom là.
Leroy.
Bernard Leroy, cet argument selon lequel la légalisation des drogues permettrait de ruiner la mafia est un leurre. Pour suivre ce raisonnement, il faudrait que l'ensemble de la communauté internationale se mette d'accord. Or, il existe 194 États qui sont pour une grande majorité opposés à la légalisation. Eh oui, mais ils sont opposés parce qu'on les a forcés à être opposés. Et celui qui les a surtout forcés à être opposés, c'est les États-Unis. Voilà. Les États-Unis qui sont en train de faire machine arrière. Donc, c'est possible. Voilà. Et que si certains d'entre eux décidaient d'autoriser le cannabis, le trafic mondial risquerait d'augmenter. Voilà. Bah non, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait peut-être qu'il prenne des cours d'économie, justement, ce monsieur Leroy. Alors, quand même, à la fin, qu'est-ce qui ressort des expérimentations qui ont été menées aux États-Unis dans divers États américains? Et donc là, bah, il persiste, ce Bertrand Leroy, en nous disant que, contrairement à ce que racontent certains médias, ça ne se passe pas si bien. Voilà. J'ai eu accès à toutes sortes d'investigations menées dans le Colorado et l'État de Washington, on ne sait pas lesquelles, et que sur place, on aurait constaté que la consommation augmente, notamment chez les jeunes de 12 à 18 ans, et que les overdoses se sont multipliées. Vous imaginez, des overdoses au cannabis? C'est incroyable.
Alors, mais c'est pareil, c'est quand même de l'à peu près, parce qu'on le sait, dans la réalité, c'est pas des overdoses, mais ça a été des...
Bah, il y a eu des surdoses.
Il y a eu des surdoses parce qu'ils étaient au gâteau. Au
gâteau que les gens laissaient traîner.
Et, ouais. Et c'était même pas les jeunes 12-18 ans, c'était plutôt les gamins et les moins de 12 ans. Mais bon, voilà, ça c'était juste. Parce qu'en fait, il dit du faux, il dit de l'à peu près, il dit. Ce qu'il dit est inexact surtout. C'est très énervant. Alors quand on prend l'exemple du Pays-Bas, hein, qui prend juste en dessous. Il dit, voilà, prenez l'exemple des Pays-Bas, qui ont été obligés d'interdire la vente de cannabis aux étrangers et de réduire le seuil de tolérance de détention par personne, passé de 30 à 5 grammes en 1996. Mais ce qui est marrant, c'est les Pays-Bas qui a été obligé d'interdire la vente du cannabis. Alors, c'est totalement vrai. Mais pourquoi? Et par qui? C'est ça qu'il faut poser.
Eh oui.
C'est qu'ils ont été obligés de l'interdire. Oui, pas à cause des Hollandais.
À cause de Jacques Chirac.
À cause de Jacques Chirac et à cause de la pression des autres pays européens
ouais.
Qui ne supportaient pas la tolérance qu'il y avait aux Pays-Bas. Mais sinon, ça ne leur créait aucun problème. Ça leur amenait même des devises. Donc, ils n'avaient rien contre vendre aux étrangers. Mais alors, c'est le phrase, voilà, c'est le pire de la mauvaise foi, je crois. C'est de dire quelque chose de vrai en laissant croire que la raison vient que ça crée des dysfonctionnements et des problèmes aux Pays-Bas, alors que non, pas du tout, c'est juste la pression internationale qui les a obligés à faire ça.
Tout à fait. Alors l'article est long, hein, je ne sais pas si on va se le faire en entier, je ne sais pas s'il est vraiment si intéressant que ça vers la
non,
fin.
Non, il y a quand même pas mal de conneries, après ouais. Je ne sais pas ce que dit y a Emmanuel Auroy, c'est ça ou autre,
Emmanuel Auriol.
Auriol, elle dit des choses un peu plus intéressantes, mais bon, elle reste dans le très politiquement correct quand même, hein.
Oui, après, mais même lui, il s'en berlificote les pinceaux parce que il dit voilà, on est passé d'une guerre totale au cannabis à pas de guerre du tout et que c'est un vrai problème. Et il dit quand même, ça veut pas dire qu'il faut pas faire évoluer les législations. Voilà. Bon, bah ok, oui. Alors depuis trois pages, il dit que non, surtout pas. Puis là, bon, ça veut pas dire qu'il faut. Bref, on a un peu du mal à comprendre. Alors voilà. Lui, il plaide quand même pour quelque chose. Hein, c'est la contraventionnalisation de l'usage du cannabis. Voilà. Bon, ça veut bien dire qu'il ne sait pas trop sur quel pied danser finalement ce monsieur et que finalement il n'y connaît rien, hein, surtout. Parce que soit on met en place quelque chose de clair et de clair, quoi. Hein, Ou alors on continue à réprimer, mais si c'est pour juste taper un peu sur la tête, mais pas trop, en mettant des PV, bon, en gros, ça fera rien changer. Et surtout, si on continue à faire ça, ça veut dire que le trafic et les mafias peuvent continuer à régner et à poursuivre leurs activités. Voilà. Donc bon, ben, ce contre quoi il se bat, en fait, c'est n'importe quoi. Et dernière chose, à propos de l'alcool, alors ça c'est quand même, je sais pas ce que t'en as pensé, je trouve que c'est le pompon quand même. Ce monsieur Bernard Leroy, il se base sur une étude de Pierre Kopp, donc, qui est un économiste, qui a fait partie du think tank Terra Nova et qui prévoit, qui souhaite un changement de législation. Et donc il cite Pierre Kopp en disant que l'alcool coûte aujourd'hui 120 milliards d'euros par an à la société française et que du coup, comme c'est légalisé, ça donne lieu à un usage excessif et problématique pour la société. Mais alors là, il a vraiment, vraiment rien compris. Justement, si c'est pas légal, l'alcool, ça coûte pas 120 millions, ça coûterait peut-être 500 millions. Et que justement, c'est tout le problème des drogues, c'est que il faut les apprivoiser et vivre avec et légiférer, les encadrer et justement pas les interdire. Pas les interdire, oui. Pour ne pas criminaliser ceux qui veulent en consommer, déjà,
ouais.
Premièrement.
Surtout que l'alcool est une drogue quand même plutôt dure.
Oui, et qui voilà. Tue quand même.
Sinon, justement, dans cette dernière partie, la question c'était qu'est-ce que ça rapporterait à la France si on décidait d'autoriser le cannabis ? Donc Emmanuelle Auriol, elle répondait de façon assez intéressante en disant que c'est assez compliqué, hein. Parce qu'il faut prendre en compte le coût de la répression pour les États, l'encombrement des tribunaux, les enquêtes liées au blanchiment, la surpopulation en prison, elle oublie, etc. etc. Voilà. Mais elle estime quand même que ça rapporterait 1,3 milliard d'euros par an en directement en taxes et que ça permettrait d'économiser au moins 523 millions d'euros de frais de justice et de police. Voilà. Et je pense que c'est largement sous-dimensionné, ces chiffres. Mais en tout cas, oui, entre les bénéfices directs et les bénéfices induits, je pense que la légalisation du cannabis amènerait bien 2 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Ça créerait donc un demi-point de croissance et ça créerait 400 000 ou 500 000 emplois entre ceux dans la culture et ceux dans la revente. On attaque à la suite.
On a pris beaucoup de temps. Il nous reste 7 minutes. Il reste 7 minutes et Chasseur de son est déjà presque prêt. Le DJ aussi. Donc bon, voilà. Vous aurez de la musique, plein de musique après, mais on ne fera pas une coupure musicale supplémentaire.
Le Figaro, les maires désarmés face au trafic de drogue, c'est Christophe Cornevin et Angélique Negroni qui écrivent là-dessus. Des compagnies de la CSI, compagnie de sécurisation et d'intervention de la Seine-Saint-Denis, contrôlent des jeunes suspectés d'être des guetteurs pour le trafic de drogue.
Alors, des maires, les maires désarmés, c'est pas les maires de famille, hein, les maires, les édiles. Hein.
Oui.
Voilà.
Voilà, bon, qu'est-ce qu'il rappelle? C'est toujours cette banlieue où il y a qui est une des plaques tournantes parisiennes, avec beaucoup de problèmes. Quoi qu'on fasse, malgré des moyens policiers de plus en plus importants, le trafic continue toujours, se déplace, change de forme. Et voilà, et les maires sont actuellement désarmés, puisque en plus de tout ça. Ces problèmes dans la vente, évidemment, créent des tensions et donc créent des violences. Ce qu'on voit d'ailleurs actuellement à Marseille, en tout cas, c'est un des arguments de la police, qui est sans doute pas totalement faux, mais voilà. Comme ils font bouger les lignes, évidemment, les gens se mordent.
Ouais.
D'autres choses, voilà, on rappelle là-dedans, dans cet article, on rappelle qu'il y a plus d'un milliard de chiffres d'affaires et plus de 200 000 personnes impliquées. Donc voilà, ça c'est le chiffre minimum, je pense qu'on peut facilement multiplier par deux. Et 200 000 c'est pour la revente, donc si on prend la culture, il y en a autant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant dans cet article ?
Pas grand-chose et plein de choses, je sais pas. Enfin, encore une fois, dans cet article sont cités deux journalistes du Parisien, Claire Guédon et Nathalie Perrier, qui ont publié un bouquin intitulé Une ville sous emprise aux éditions du Rocher. Je le cite parce que le cirque est régulièrement cité dans cet ouvrage. Et voilà, c'est rare, suffisamment rare pour le préciser. Voilà.
Voilà, on arrive à la partie internationale, donc du coup, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, on en a déjà pas mal parlé la semaine dernière, donc vous savez maintenant que près d'un Américain sur cinq a accès du cannabis à usage récréatif, quoi, dans l'année qui arrive, hein, il faut que les législations, puisque donc il y a quatre nouveaux États qui ont
changé leur législation.
Voilà. Et donc, pour les citer, c'est la Californie, le Maine, le Massachusetts et le Nevada, qui se rajoutent donc aux quatre autres qui avaient déjà légalisé. Donc nous en sommes à 8 États sur 50 et à 20% de la population américaine. Est-ce que ça va changer au niveau fédéral? C'est la grande question. On va voir.
Ben, c'est la grosse interrogation avec effectivement l'élection de Trump comme président. Voilà, il a quand même nommé à certains postes, notamment celui de la justice. On ne sait pas encore. Excusez-moi.
On ne sait pas encore qui a jugé. Oui.
Qui l'a nommé. C'est Giuliani qui est pressenti. Hein. Giuliani qui a été maire de New York dans les années 80, un chantre de la tolérance zéro. Qui a abouti justement à ce qu'on disait auparavant, la mise en prison d'un Américain sur 111 et la plupart étant des Noirs américains. Hein, c'est en partie aussi grâce ou à cause de Giuliani, à cause de Reagan, hein, mais en tout cas Giuliani dans la ville de New York, c'est quand même lui qui a fait appliquer la loi. Donc voilà, des gens a priori
pas très très progressiste au niveau de là-dessus.
Et pas favorable du tout à un changement de législation sur le cannabis.
Si c'était les démocrates qui étaient restés, avec 20% de la population, dont la Californie, je pense que la législation aurait changé assez rapidement.
A priori. Mais là, c'était pas sûr non plus. Hein.
Et là, avec les républicains, a priori, ça devrait aller moins bien.
Mais on ne sait pas. Hein.
On ne sait pas. En tout cas, l'article suivant de l'Express rappelle les problèmes qu'il y a justement, donc le problème de l'Amérique avec la marijuana. Que faire avec tout ce cash? Le souci vient justement que l'administration fédérale interdit d'avoir aux banques d'accepter de l'argent de la marijuana, même si celle-ci est légalisée par les États. Et cela ne change rien à la législation fédérale. Et donc, tous les vendeurs, toutes les industries cannabiques sont obligées d'avoir beaucoup de cash, de faire balader des camions blindés,
des fourgons blindés, ouais, pour collecter
de venir recettes, payer leurs impôts en cash, quoi. C'est un truc assez farfelu, assez étrange, mais c'est comme ça. Voilà, d'où l'article, le problème de l'Amérique avec la marijuana, que faire avec tout ce cash. Et donc tout ce qui va se passer, les mesures du nouveau président peuvent bloquer, puisque c'est vrai que dans les États qui avaient légalisé il y a quelques années, on commençait à avoir des assouplissements bancaires.
Ouais, j'aime bien ce petit paragraphe à la fin de l'article. Il y a quelqu'un qui a interrogé d'une association qui s'appelle Marijuana Majority. Quelqu'un qui dit quand même que dans un certain nombre d'États, la législation pour réformer la question de la marijuana a recueilli plus de suffrages que l'élection présidentielle ou que celle pour la course au Sénat américain. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu un gros élan populaire aux États-Unis dans un certain nombre d'États, enfin là où il y avait des propositions visant à changer la loi pour voter. Ouais. Donc c'est intéressant. Voilà. Mais on verra. Pour l'instant, on ne sait pas. Ah. Il est pragmatique, ce Trump, a priori.
Ouais. Voilà. Bon,
est-ce qu'il le sera sur le cannabis?
On va s'arrêter là. Hein.
Oui, on va s'arrêter là. Il est 22h et...
Voilà, donc on vous parlera pas du projet de loi visant à légaliser la marijuana qui sera déposé au printemps 2017 au Canada. On vous en a parlé et on vous en reparlera de toute manière, surtout au printemps 2017, c'est demain. Donc on vous donnera tous les détails quand ça arrivera. On vous parlera peut-être une autre fois de marijuana et boissons alcool, le laboratoire américain.
Boissons gazeuses.
Et boissons gazeuses, voilà.
Oui, parce qu'il y a aussi eu des lois, enfin les Américains ont aussi pu voter pour d'autres trucs aux États-Unis pendant les élections. Il y avait des histoires de boissons alcoolisées ou pas. Enfin, ouais, c'est assez intéressant. Hein.
Voilà, ben à Denver maintenant, il va y avoir de nouveau, on va pouvoir fumer du cannabis dans des bars. Voilà, là aussi.
Ça va devenir légal.
Grandes avancées.
C'est une initiative, l'initiative 300, voilà, qui autorise des espaces à autoriser des fumeurs de cannabis voilà, consommés dans les établissements. Ça aussi, on verra.
Voilà, et puis je ne sais pas si on reviendra un jour sur cet article sur l'Indonésie.
Très intéressant également.
Sur l'usage culturel du cannabis défendu dans un des pays les plus répressifs du monde.
Eh oui, ben oui, parce que comme aux Philippines, où là-bas il y a Duterte, donc le nouveau président philippin qui est une crapule, hein, qui a déclaré la guerre aux usagers, bref, qui a déjà, avec ses déclarations, il y a déjà eu 3000 morts. Mais il se trouve qu'en Philippines, il y a Joko Widodo, qui est aussi un président... extrémiste, anti-drogue. Et il faut savoir qu'en Indonésie, il y a quand même toujours Serge Atlaoui qui est dans le couloir de la mort. Hein, on a une petite pensée pour lui, encore une fois. Mais voilà, donc en Indonésie, comme dans plein de pays, ils cherchent à éradiquer le cannabis, sauf qu'il y a un usage culturel du cannabis en Indonésie, comme dans, je dirais, quasi presque tous les pays du monde, hein, d'ailleurs, hein, même en France. Hein, bon, c'est pour d'autres raisons, hein, au niveau du chanvre. Agricole, mais bon. Donc en tout cas, voilà, ils essayent...
Quoi, le champ, mais c'est ce qu'on fumait pendant la guerre quand il n'y avait pas de tabac.
Ouais, mais il ne faut pas le dire. C'est bien qu'il ne faut pas le dire.
Ouais. Non, mais je me souviens quand même de cette personne d'un certain âge qui me racontait ça.
Ouais.
Il y a une vingtaine d'années, un prime vert, mais bon, voilà.
Enfin, en tout cas, voilà, ils ont beau essayer d'éradiquer le cannabis en Indonésie, vu que c'est un produit culturel... Ils ont même beau essayer d'y foutre le feu. Bref, ça repousse, en fait. Voilà. Mais en théorie, on encourt quand même de 4 à 5 ans de prison pour consommation de cannabis en Indonésie, 5 ans pour trafic. Mais dans les faits et sur le terrain, ces sanctions ne sont jamais appliquées, puisqu'on peut payer les policiers. Voilà. Malheureusement, pas partout. Hein, Michael Blanc, lui, il a pu payer personne, ou alors plutôt, il a payé des gardiens de prison pendant 20 ans. Voilà, enfin bon, c'est pas si simple, mais en tout cas, voilà, c'est aussi très difficile de vouloir éradiquer une substance qui est utilisée traditionnellement dans le cadre de la culture. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est la fin de Cannabis Circus. Le Cirque Lyon qui a animé cette émission vous remercie une fois de plus pour avoir été fidèle à l'écoute de Radio Canu pour l'émission Cannabis Circus. Voilà.
Ciao à tous, ciao à tous.
Et maintenant, c'est Chasseurs de Sons. À la semaine prochaine, au revoir.